Salut à tous et bienvenue dans Baba Versus, votre nouvelle émission RMC Sport Combat qui reçoit à chaque nouvel épisode un acteur du monde du combat. Et cette fois-ci, je me retrouve avec un grand champion français de MMA, double champion de l'organisation KSW sur les poids plumes et les poids légers. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G, me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. You the best. You the best. No contest. You the best. You the best. No contest. Salut, comment ça va?
Ça va et toi, moi?
Ça va impeccable, je te remercie. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à l'invitation.
Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir de te revoir et de te voir ici.
Ouais, on s'est vu quelques fois déjà dans le RMC Fighter Club, t'es déjà venu. Et puis c'est un peu différent, comme je te l'ai dit. On va essayer de retracer un petit peu ton parcours de vie et puis de sportif. Et de voir aussi quelles sont tes aspirations pour le futur, parce que t'es quand même relativement jeune encore, hein, t'as même pas 30
encore, ans. Encore, non, même pas.
Voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
Mais je me rapproche.
Ouais, ça va.
Mais ça va, ouais.
T'as le temps, le temps. Et puis t'es en pleine préparation, donc, comme je te disais, parce que tu vas affronter Martin Ed. Là, d'ailleurs, à l'heure où on enregistre, ce matin, t'as fait une séance piste.
J'ai fait l'entraînement comme d'habitude, hein, dur. Et il y a tout le monde qui m'attend, tous les jeunes qui m'attendent, donc... obligé de se dépasser, obligé de me dépasser parce que j'ai envie de gagner ce combat, j'ai envie de gagner tous mes combats, donc c'est une détermination. Quand je me lève, j'ai envie de réussir ma vie, donc au top.
On regardait avec mes collègues, notamment Oscar Joss et Hugo Pérez, tes vidéos des séances de piste, et en fait on se prenait la tête sur ce que tu fais, sur les temps. Ouais. T'arrives sur un 15x400, le 15e, à faire des temps 53 secondes. On a été vérifié, ça te mettrait dans le top 300 en athlétisme en France. Tu te rends compte un peu
de ça? J'ai vu, ça fait un peu polémique, mais c'est ça, hein, c'est ça. je me tire l'entraînement et je pense que ça paye tout le temps. Et pour l'instant, on est sur la bonne voie. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai ce niveau-là, parce que j'ai cette détermination qui me pousse à me dépasser à chaque fois.
J'aimerais bien donc là qu'on fasse un gros retour en arrière. Ouais. T'as 28 ans, donc on va... remonter 20 ans en arrière, voire même un peu plus que ça. Tu es né dans un département cher à mon cœur.
Ouais.
Parce qu'on vient du même département et on est même très voisins. Parce que moi, j'ai grandi à Saint-Ouen. Toi, t'as grandi à Aubervilliers. Ça ressemblait à quoi de grandir dans l'Aubervilliers des années 80, de fin des années 90, début des années 2000?
Ça ressemblait à quoi? C'était, on est livré à nous-mêmes, hein, étant jeune. Moi, j'ai grandi à Aubervilliers. Je suis né à Aubervilliers. J'ai mon père et ma mère... qui ont habité à Aubervilliers. Donc du coup, j'ai fait toute mon enfance et même encore, j'y vais quasiment tous les jours parce que le club, la Hatch Academy, il se trouve à Aubervilliers. Donc comment j'ai grandi normal, comme un garçon normal qui cherche à réussir sa vie, à se prouver des petites compétitions, plein de choses, à réussir plein de choses. J'ai grandi avec un frère et deux sœurs. Mon frère qui s'appelle Samir, et ma sœur qui s'appelle Rita. Et...
Ouais, vous êtes tous les deux au milieu, c'est ça? Vous êtes encadrés par les deux filles?
Moi, je suis au milieu.
Ouais.
J'ai Rita, ma petite sœur, et j'ai Sarah, la plus grande.
Ouais.
Donc, j'ai grandi avec mon père. Et mon père, c'était les gardiens des impôts. Mm-hmm. C'était son travail. Donc, du coup, on vivait dans les impôts.
OK.
Ma mère était auxiliaire de vie. Donc, elle travaillait dans une maison de retraite. Donc, ils ont tout fait pour qu'on réussisse nos vies. Ils ont beaucoup sacrifié de leur temps. Puis après, vivre à Aubervilliers, c'est sûr que c'est difficile.
Parce que le milieu, grandir à Aubervilliers, ça peut inciter à faire pas mal de bêtises, choses.
Ouais, c'est ça.
T'es exposé à ça un peu?
C'est le quartier, il est difficile.
Ouais.
Aubervilliers, c'est le 93, donc c'est sûr que ces communes-là, c'est compliqué de réussir sa vie. Et de faire des bonnes choses.
Mais, t'as fait un petit peu des bêtises ou...
Non, ça va. Non. C'est vrai que c'était un peu difficile, mais après, j'ai eu une bonne éducation.
Ouais.
Grâce aux valeurs que mon père m'a inculquées, et ma mère aussi.
C'est une double culture. Ton papa est guadeloupéen, ta maman est marocaine.
C'est ça.
Ce qui a pris un peu le dessus quand vous étiez jeune.
Ah, c'était ma mère. Hein, ma mère avait plus la main facile, on va dire. Et mon père, c'était quelqu'un de calme. Hein, quelqu'un de calme qui criait pas beaucoup, donc... Bon, voilà, c'était un peu difficile parce que Mes parents ils se sont séparés quand j'avais 10 ans. Mmh. Donc du coup, il y a eu ce côté-là qui était un peu compliqué. Où en étant jeune, c'est toujours dur en tant qu'enfant de vivre un divorce. C'est pour ça que moi, j'ai ce côté-là où j'essaye de faire au mieux d'avoir une bonne stabilité avec ma fille, ma femme aussi. Donc voilà, c'est important tout ça, de transmettre des bonnes valeurs. Je pense que ça fait partie de l'éducation et je pense qu'on a tous besoin de ça.
Ouais, c'est vrai. On dit hein, évidemment que grandir dans le 9-3, c'est pas facile avec le contexte, l'environnement, le terrain, évidemment, beaucoup mm-hmm. de... Enfin, on va pas expliquer la vie à tout le monde. Tout le monde sait à peu près comment c'est la Seine-Saint-Denis. Mais c'est pas que ça. Je dis toujours aussi que moi, pour rien au monde, j'échangerais ma jeunesse parce que c'est un endroit, c'est un melting pot avec beaucoup de gens de cultures différentes, beaucoup
bien
d'entraide,
sûr.
Beaucoup de solidarité.
Ouais, bien sûr.
C'est des choses aussi, j'imagine, que tu gardes avec toi pour les.
Bah, j'en garde toujours et je suis marqué par ça. Mmh. Je suis marqué par ça. C'est ça qui fait l'homme que je suis maintenant. C'est comme ça que j'évolue. C'est comme ça que j'ai évolué aussi. C'est passer par plein d'émotions. Je pense en tant qu'homme, on a besoin de passer par plein d'émotions pour grandir, pour apprendre pour prendre en maturité, pour être plus stable dans sa vie.
Donc, ouais. Et du coup,
c'est important.
Bah oui, c'est vrai. Et d'avoir cette solidarité au dos de soi, j'imagine que ça peut aider à surmonter, comme tu l'as dit, la séparation, parce que du coup, tu grandis avec tu vis avec ta maman.
Je vis avec ma mère et j'allais voir mon père le week-end, ou des fois je restais une semaine, ça dépend, c'était un peu varié, je me rappelle plus trop, parce qu'après le temps passe. Hein,
ouais, bah oui, c'est sûr.
Donc ouais, c'est difficile pour je pense que chaque enfant de vivre un divorce. Mmh. Surtout quand tu viens d'un quartier un peu compliqué comme Aubervilliers.
Ouais, la figure paternelle, en règle générale,
c'est ça.
Le quotidien, ça permet de moins dévier.
Après, t'es délaissé, t'es livré à toi-même. Mmh. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait un parcours normal, j'ai fait mes études.
Ouais.
J'avais après ce petit truc en moi, et j'avais besoin de faire un sport de combat parce que j'avais beaucoup d'énergie.
Ouais.
Donc,
mais avant de parler sport de combat, parce que tu parles d'études, donc tu as mené les deux de concert,
ouais,
hein. C'était des études dans quel domaine ?
Bah, j'étais à l'école normale,
ouais.
L'école publique normale, j'étais à un collège qui s'appelle Rosa Luxembourg.
Oui, je connais très bien.
Qui est situé à Aubervilliers.
Ouais.
Donc du coup, j'ai fait tout mon parcours scolaire là-bas, puis après je voulais vite un domaine professionnel pour gagner bien ma vie, parce que je pense qu'il faut être stable. Et moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était la plomberie, c'était le BTP, parce que je savais que ça allait ramener de l'argent assez rapidement. Donc j'avais déjà cette stabilité-là, et j'avais mes oncles qui travaillaient dans le BTP. Donc ça m'a plus, ils m'ont plus ouvert la voie par rapport à ça, par rapport à mes décisions. Donc du coup, j'ai fait un bac installateur énergétique et climatique,
ouais,
c'est-à-dire la plomberie. Donc j'ai fait un CAP aussi avant, j'ai fait un CAP, et puis après j'ai fait un bac, je me suis dit si je rate mon bac, au moins j'ai mon CAP.
Ouais,
donc,
j'ai fait
4 ans, j'ai fini les études à 18 ans, puis après j'ai travaillé directement en tant que plombier.
À la mairie il me semble.
Pas à la mairie directement, je travaillais avec un ami qui s'appelle Johan,
okay.
qui m'a ramené avec lui, donc je travaillais avec lui, je faisais de la maintenance, donc on allait chez les clients, voilà quoi. Histoire de gagner un peu de pépette, c'est important.
Ouais, bah ouais.
Pour se construire.
Bah c'est clair.
Pour se construire une vie, pour s'acheter des trucs. Et moi, j'avais perdu mon père assez tôt, à l'âge de 17 ans, donc j'étais livré à moi-même. Et je voulais pas demander à ma mère qui gagnait pas assez d'argent. Je voulais vraiment faire les choses tout seul. Je voulais me construire déjà tout seul. Donc j'ai pu gagner un peu d'argent et je vivais un peu chez mes parents, donc j'ai mis un peu de côté et tout ça.
Ouais, tu vivais toujours chez ta maman à ce moment-là. Donc travailler,
ouais,
en vrai, c'est beaucoup pour l'aider.
C'est ça. Bah, beaucoup pour l'aider et beaucoup aussi
pour
mon indépendance, pour m'acheter des trucs, pour établir un truc à long terme.
Ouais, ok. Donc, tu pensais déjà, toi,
ça,
ton futur,
construire
quelque chose, avoir quelque
J'avais
chose.
J'avais déjà cette envie-là de réussir ma vie.
On y revient au niveau pro de métier, parce que à un moment, les deux vont se rejoindre et tu vas prendre une décision et tu vas arrêter de bosser pour pouvoir te consacrer à ta carrière sportive. Du coup, le sport, une autre chose qu'on discutait avec mes collègues et qu'on se dit quand on te voit et quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, c'est qu'on connaît tous quelqu'un, Salah, qui est trop fort dans n'importe quel sport. Tu sais, ce mec-là, on est tous jaloux de ce gars-là, ouais. Il nous énerve parce que tu vas courir, il va courir plus vite que toi, tu vas faire le sport de combat, il va être meilleur que toi, tu vas jouer au foot, bah, il va te mettre des petits ponts. Tu me confirmes que t'es ce genre de gamin, en fait?
Ouais, un petit peu, en fait, j'aime bien le sport. J'aime bien faire du sport, j'aimais bien le sport de combat, donc c'est pour ça que j'ai fait les MMA. Ouais. Et j'aime faire tout sport, du tennis, du football. J'aime ça, j'aime skier aussi, j'aime faire du snow. Là, j'ai commencé à faire du snow, là. Je suis parti en vacances, là. Il y a 2 mois avant ma préparation, ouais. Je suis parti aux Étoiles du Sport. Donc, du coup, ouais. j'ai pu faire du snow, c'était une première et j'ai kiffé aussi.
Juste sur les Étoiles du Sport, parce qu'après, on va revenir sur ton enfance sportive, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant en tant que combattant de MMA professionnel. Parce qu'il y a eu des grands footballeurs qui ont fait cet événement-là. Tu peux expliquer un tout petit peu ce que c'est?
L'Étoile du Sport, c'est plein de sportifs qui se réunissent, qui échangent. Il y a plein de petits sportifs aussi qui pensent à leur après-carrière, qui cherchent des sponsors, qui ont du mal à... ont du mal à vivre avec leur sport. Il y a beaucoup de sports olympiques aussi. Ouais. Dernièrement, il y a beaucoup aussi de personnes qui sont en situation de handicap aussi. Ouais. Donc non, c'est des bonnes valeurs. Et même ça te permet d'apprendre plein de choses. On fait aussi beaucoup de mise en thème d'interviews, des trucs comme ça, des valeurs qu'on partage. Et je pense que c'est important. On s'entraide, on va dire. Et il y a des belles échanges. Et même, je pense que quand tu vas là-bas, ça te remet une baffe sur l'humilité, parce que c'est important, parce que tu vois qu'il y a des personnes qui sont handicapées qui arrivent à devenir ce qu'ils sont, forts dans leur sport, à devenir des champions olympiques.
Ouais, et puis en plus, là, quand t'es là-bas, dans cet environnement, tu rencontres d'autres sportifs de très haut niveau. Je sais pas si t'en as au quotidien avec toi, déjà d'ordinaire, ou si ça te permet d'en rencontrer d'autres.
Ouais, j'en ai un peu, mais je suis plus dans ma bulle, dans le côté. Ouais. Mais moi, je sors pas trop de ma zone.
Je sors pas trop
de ma zone de confort.
Écoute, pour revenir, parce que j'imagine que le gamin Saladin, il s'imagine peut-être pas accompagner des jeunes comme ça en étant justement un représentant d'un sport de très haut niveau dans ce genre d'événement-là. Quand tu es à Aubervilliers, et on sait aussi qu'un des gros avantages de grandir dans la Seine-Saint-Denis, c'est que tu peux pratiquer tous les sports. En règle générale, pour pas grand-chose. Mm-hmm. Normalement, ça va. Entre la S-Collège et puis les associations, on a quand même pas mal d'opportunités pour pouvoir pratiquer du sport. Tu as commencé par quoi?
J'ai commencé par le MMA directement.
Tout de
j'ai
suite.
Fait un peu de karaté, ouais. Mais c'était pas vraiment sérieux.
J'étais pas de foot, pas de...
Si, j'ai fait un peu de foot en parallèle du MMA, j'avais 11 ans.
Mais... Un gros club au Aubervilliers en plus.
Ouais, c'était... Deux, je crois. Moi, j'étais à la GA.
Ok.
J'étais à la GA, j'ai fait vite fait, pas trop.
Non, ça te plaisait
non,
pas.
Ça me plaisait pas. C'était plus le sport de combat.
Parce que la patte gauche, Roberto Carlos, un petit débordement.
Non, ça va, j'accélérais, j'étais côté gauche, comme je suis gaucher, ouais. J'accélérais à fond, mais c'était pas pour moi. Mais ça va, j'étais bon quand même, mais c'était pas pour moi.
J'en doute pas, bizarrement, tu vois, j'en doute pas. Je me dis que t'aurais pu faire un truc.
Non, mais moi, c'était le sport de combat.
Ouais.
Le sport de combat, c'était
tout plus, de suite. Qu'est-ce qui c'est quoi ton premier souvenir de sport de combat, même avant de commencer le sport? Est-ce que t'as des souvenirs, par exemple, de films ou de choses comme ça?
Bien sûr, bien sûr. Bah, avec mon père... Tous les dimanches, voilà, on se matait les films Texas
Walker. Walker Texas Ranger, à la base.
Voilà, en plus, mon père, c'était un peu un ancien qui était posé comme ça, et nous, on était posés par terre, on regardait ça, c'était avec Chuck Norris, tout ça, c'était, ouais. Non, c'était incroyable, c'est des moments...
Ouais, c'était tous les dimanches.
Des moments inoubliables, et c'est ces valeurs-là, et c'est ça qui m'a plus poussé, regarder des films comme Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, tout ça. Donc mon père, il était à fond dans les sports de combat. En même temps, il était militaire avant.
Ouais.
Donc voilà, il était à fond derrière moi.
C'était, du coup, il avait aussi un passé militaire, c'est vrai. Et puis, un fan de sports de combat, ça a amené quelque chose d'un peu strict dans la manière de vous élever?
Non, du tout, non. Mon père, c'était quelqu'un de très gentil, un peu timide même.
Mm-hmm. Comme toi, quoi.
Ouais, ouais, un peu comme moi. On a tous pris un peu de ça, mais il était vraiment gentil. Il a tout fait pour nous inculquer des bonnes valeurs. C'est mon père, il nous a jamais crié dessus, à part quand je me battais avec mon frère, mais sinon jamais. Non, toujours été respectueux. Il a jamais levé la voix. Et jamais levé la voix sur nous.
Ouais, non, mais de toute façon, on voit aussi, hein, quand on voit toi, ton frère.
C'est important d'apporter des bonnes valeurs, et c'est ça qui fait l'homme que je suis maintenant. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre aussi aux plus jeunes. C'est de profiter de toutes ces émotions-là, de construire quelque chose de très stable, parce qu'on est livré à nous-mêmes, d'avoir une bonne éducation, d'être présent pour les parents, de souhaiter des bonnes choses aux parents avant qu'ils nous le souhaitent. Ouais. C'est le plus important et c'est ces valeurs-là qui m'ont inculqué mon père et ma mère.
Oui, c'est des valeurs que tu portes au quotidien, on le sait, on le voit, je ne pense pas me tromper en le disant. Et du coup, d'avoir cette influence à la maison avec le papa, de toute façon, on fait tous ce que notre papa il nous montre. Moi aussi,
c'est ça.
Il est à fond dans la boxe, dans les sports de combat, donc forcément, il nous a tous mis au judo à l'âge de 5 ans. Il n'y a que moi, hein, sur les 4, qui est poursuivi dans les arts martiaux et que les arts martiaux. Mes frères, moi, c'est des fouteux, tu vois. Donc, je sais ce que c'est d'avoir les cassettes, de se dire, écoute, moi aussi, je veux le faire. Et du coup, tu décides, toi, à l'âge de 12 ans, de pousser la porte d'un club, en fait.
C'est ça, à l'âge de 11 ans, ouais. À la Hatch Academy. Donc, direct, j'ai fait mes premiers entraînements et j'avais cette énergie-là, ce petit truc-là où. Je sais pas, quand je rentrais, j'avais cette énergie-là, tout le monde me regardait. Et puis voilà, moi, je devais. Je voulais montrer aussi le meilleur de moi-même. Et j'avais cette agilité-là, on va dire, comparé aux autres.
Tu avais déjà le potentiel athlétique, en tout cas.
Un petit peu. Ouais. Après, je l'ai beaucoup travaillé. Même si j'avais ce don-là, je l'ai beaucoup travaillé. Parce que j'avais cette agressivité-là qui était. Je sais pas, c'était comme ça. Hein. J'aimais bien ça. Tout ce qui était corps à corps, tout ce qui était percussion, c'est comme ça que j'ai grandi.
Tout en fait, parce que tu arrives dans un club de MMA.
C'est ça.
Tu vois, moi ça. Par exemple, je commence par la boxe thaï, enfin même la savate pour être plus précis. D'autres par le karaté, d'autres par le judo, donc c'est de l'appréhension. Toi, tu arrives, tu as le MMA devant toi.
C'est ça.
Et tous les aspects, tout de suite, tu te dis, moi, c'est
ouais,
bon.
Ouais, tout de suite, moi, j'aimais tout. J'aimais tout, même quand j'étais petit, je regardais le catch avec mon frère, tout ça. Ouais. On aimait ça, et ça, le MMA, c'est ce qui se rapprochait le plus du catch de la boxe ou du kickboxing, parce que moi, je savais pas quoi choisir, le MMA, ça regroupe tout.
Ouais.
Moi, je voulais tout faire en même temps. Je voulais pas faire un seul sport, je voulais pas faire du karaté parce que je voulais pas envoyer que les poings et les pieds, je voulais tout faire, je voulais me rouler, je voulais...
Ouais, donc quand on dit que t'es un des premiers bébés MMA, on se trompe pas du tout.
Non, fait. du tout. J'ai eu la chance, c'est que on a eu l'un des premiers clubs de MMA, qui est la Hatch Academy. C'était Hatch le fondateur de ce club. Et lui aussi, il a vécu à Aubervilliers, donc on a eu cette chance-là d'avoir ce club.
Ouais, c'est clair. Justement, arriver dans ce club-là, déjà, c'est ton idée d'aller à la Hatch Academy ? C'est ton frère ? C'est quelqu'un que tu connais ?
Non, c'est mon idée. Je me baladais, je devais avoir 11 ans.
Ouais.
Je me baladais, tout ça, et puis j'ai vu la salle, parce qu'elle était à côté de chez moi.
Ouais, c'est dans ton quartier ?
Ouais, c'était à 5 minutes à pied.
Ok.
Donc c'est vraiment à côté. Donc j'ai vu la première fois, j'ai ouvert la porte, je vois des mecs qui se roulent, ça, je fais, wow, c'est incroyable de faire ça. Et à cette époque-là, il y avait des gens de mon quartier aussi qui faisaient du MMA. Il y avait, je me rappelle, c'était ça qui m'avait plus percuté, c'est un gars qui s'appelait Nassim, que je respectais beaucoup parce qu'il était plus âgé que moi. Et il était fort, quoi. Il était fort, il avait déjà commencé avant moi. Donc je voulais faire ça.
Ouais, tout de suite. Un combattant, peut-être, qui a fait une carrière ensuite, qui t'a impressionné quand t'arrives
Ouais, si, il y a Faba Karidjata,
ouais.
qui est mon collègue. On a commencé en même temps, à peu près. Je crois qu'il était inscrit avant moi, même. Donc, il m'a plus percuté parce qu'il avait cette génétique-là où il était plus fort que moi, à son âge. Genre, génétiquement, il avait déjà la force d'un mec qui avait 18 ans alors qu'il en avait 12 ans. C'était incroyable. Ouais. Donc, j'ai tout fait pour avoir cette force-là. Et même lui, il m'a beaucoup poussé dans les entraînements. Et je le voyais, tout ça. Je me suis dit, bon, comment lui, il arrive à faire ça? Moi, je n'arrive pas. Donc, ça me poussait à travailler.
Donc, tu te calques un peu sur lui.
Ça,
tu ne calques pas sur un combattant pro qui est déjà en carrière. C'est vraiment sur un gars proche de toi.
C'est ça. C'est ça. Et aussi, je regardais beaucoup... l'UFC, le Pride, tout ça à l'époque.
J'allais y venir, tu visionnais, tu regardais.
Ouais, je regardais. À l'époque, c'était diffusé sur RTL9.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on était posés en famille, on regardait ça, moi et mon frère. C'était tard le soir, je crois, c'était vers 23h à l'époque, ça passait. Donc, après, il y avait le catch, tout ça. Après, il y avait l'UFC, où il y avait d'autres combats. Donc, on regardait ça à fond. C'est ça qui m'a inspiré. À l'époque, le champion, c'était José Aldo aussi. Donc,
ouais.
Mon c'est plus préféré, ouais, moi temps. Aussi, moi aussi avant, avant plus maintenant, mais.
Ah comment ça là? C'est qui maintenant?
Non, maintenant c'est, je sais pas, maintenant c'est,
bon,
c'est ça a changé maintenant. Le MMA c'est plus la même chose.
C'est vrai.
C'est plus la même chose. Avant on avait plein d'acteurs qui étaient forts, mais pas comme maintenant. Je sais pas, là c'est trop éparpillé. Avant tu sais il y avait Anderson Silva, il y avait Fedor, il y avait Shogun Rua, il y avait C'était plus ça.
Non, mais c'est vrai, mais il y a pire comme exemple.
Ouais.
Commencer un sport, ça va.
Non, mais ouais, c'est ça. Donc voilà.
Ok. Et puis évidemment, quand tu rentres dans cette salle, elle s'appelle la Hatch Academy. Hein, donc il y a un personnage. Il y a un personnage qui s'appelle Stéphane Chauffourier.
C'est ça.
Hatch, qui devient ton coach, manager, mentor et tout. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec Hatch?
Est-ce que je me souviens? Non.
Pas vraiment?
Non, pas vraiment. J'étais jeune, j'avais 11 ans. Non, il m'a tout de suite ouvert les portes de son club. Ma mère, elle a pris l'inscription, ouais. Elle m'a inscrit. À l'époque, c'était 200 euros à peu près. Donc, elle m'avait pris la première licence. Puis après, j'ai fait mes premiers combats. J'étais déterminé. J'avais ce truc-là où j'allais à l'entraînement tout le temps. Vraiment, même je passais mes vacances à la salle.
Ouais, tu partais pas en vacances?
Non, je voulais pas partir en vacances. Je voulais
ça, devenir fort. Ça, c'est un truc fort. De fou, quand même.
Ouais, vraiment, vraiment. C'était... Non, c'est des sacrifices et beaucoup de travail. Et même, on n'avait pas aussi les moyens de partir en vacances. Donc, au lieu de rester au quartier pendant 2 mois, bah, moi, j'étais à la salle pendant 2 mois. Limite, je dormais là-bas. On se faisait des bouffes avec Faba Karidjata, Zoumana Sissé. On regardait le MMA à fond. Ouais. On était à fond vers le MMA. Et à l'époque, il y avait Francis Ngannou aussi.
Ouais, c'est vrai.
Qui combattait chez Hatch. Donc, ça m'a permis de voir plein de champions. C'est plus eux qui m'ont inspiré, parce que je les voyais avec les ceintures, tout ça. Je me suis dit, un jour, j'aurais leur place.
Ouais.
Donc, je voulais m'entraîner à fond et voilà, je voulais réussir dans ce sport.
Et tu te rappelles à peu près quand ça bascule avec Hatch, quand il te repère et qu'il comprend en fin de compte qu'il a peut-être un prodige qui peut faire une carrière?
Bah, c'est facile de repérer quelqu'un dans une salle, parce que c'est pas tout le monde qui est vraiment déterminé.
C'est vrai.
Des fois, moi, je vais même au jour d'aujourd'hui, je vais à la salle, des fois, je me retrouve quasiment tout seul. Mmh. Donc non, c'est dur d'avoir cette discipline et ce travail-là. Je pense que c'est important pour tous les combattants et même pour ceux qui ne sont pas combattants, de mettre tout son sacrifice au travail. Quand on veut réussir quelque chose, faut faire beaucoup de sacrifices, faut se consacrer à fond et ça paiera un jour ou l'autre.
Il y a Mike Tyson, il y a une phrase que je répète toujours à mes élèves, tout le monde va aller au paradis mais personne ne veut mourir.
Ouais, je pense
surtout dans ce sport-là.
Moi, je pense qu'il n'a pas tort. Je pense que c'est une réalité des choses. Non, il faut se donner les moyens. Et moi, j'avais ce truc-là où je me donnais les moyens à fond. J'avais cette énergie-là. Je voulais réussir vraiment dans ce sport et je voulais réussir ma vie.
Donc, ça arrive vite dans ta carrière. En fait, rapidement, tu te dis que tu peux faire carrière dans ce sport?
Ouais, rapidement, oui et non. Comme je te dis, je travaillais à côté. Je travaillais avec un ami qui s'appelait Johan, puis après j'ai eu un contrat à la mairie, donc j'alternais. Le sport c'était plus un plan de secours.
Okay.
Vraiment, vraiment. Bon, je voulais réussir dans le sport, mais il y a plein de facteurs qui peuvent venir. Le facteur des fréquentations, les facteurs de l'environnement aussi, ce qui peut arriver dans ta vie, les émotions, il y a plein de choses qui peut arriver. Et moi, je voulais être libre, donc je cumulais le travail et plus le sport.
Ouais.
Donc le sport, c'était plus une passion. Donc avant tout, fallait que je me nourrisse. Comme je t'ai dit, j'ai perdu mon père tôt. Donc je voulais réussir ma vie, donc je travaillais. Dès que je finissais les cours, j'allais au sport tout le temps. C'était vraiment, je le prenais vraiment comme une passion. Et je savais que j'allais réussir parce que je me donnais les moyens. Donc je cumulais le taf et le sport. Une fois que je suis rentré à la mairie à 18 ans, mes heures de travail, c'était 6h du matin jusqu'à 15h à peu près. J'avais une pause le midi. Et moi, pendant ma pause, j'allais à l'entraînement.
À l'entraînement.
Parce que c'était à Aubervilliers.
Ouais.
Donc, je faisais ma pause à l'entraînement. Et puis après, je mangeais quelques trucs et je repartais au travail.
Ouais.
Et puis après 15h, je rentrais chez moi parce que j'avais fini le boulot. Et puis le soir, 20h...
Tourne à la salle.
20h, je retourne à la salle.
Donc là, oui, c'est un plan de secours, même si tu veux réussir dedans.
C'est ça.
Mais en tout cas, tu t'entraînes comme un professionnel.
Ouais, je m'entraîne comme un professionnel, à fond.
Et puis, t'es quand même un jeune homme, et encore une fois, et je reviens encore dessus, parce que moi, c'est des choses qui m'ont un peu détourné du sport, par exemple.
Ouais.
Les fréquentations, tu vois.
Ouais.
Est-ce que Hatch, il avait un petit peu ce rôle-là aussi de t'écarter des mauvaises fréquentations, ou c'est plus
l'autonomie? Déjà, moi-même, étant jeune, je voulais réussir. C'est. C'était comme ça, je voulais devenir fort, je voulais réussir dans mon sport, et la seule façon de réussir, c'est de travailler. Après, Hatch, c'est sûr qu'il nous a inculqué des bonnes choses aussi. Il nous évitait toute mauvaise fréquentation, il nous conseillait dans le bien, mais après, quand t'es jeune, quand tu as 11 ans jusqu'à, bah, même jusqu'à aujourd'hui, tu es livré vraiment à toi-même. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu décides d'aller à la salle, c'est toi tout seul. Si tu décides de mettre ton réveil pour aller t'entraîner, tu le décides tout seul.
La vraie discipline, elle est là.
C'est ça le travail. Donc, c'est ça le plus important, c'est la discipline. Donc moi, j'avais ce truc-là, cette envie-là de réussir ma vie. Donc, comme je te dis, j'ai cumulé le boulot. Et le sport, après mes 23 ans, quand j'ai créé une stabilité, on va dire quand j'ai plus investi parce que je vivais chez ma mère, mm-hmm. donc j'ai pu mettre de côté, plus les combats qui m'ont rapporté, c'était comme à l'ancienne, les gens qui combattaient en boxe thaï, ils travaillaient à côté.
Exactement.
On avait plein d'exemples.
Au bout d'un moment, hein, t'as pu faire ça, mais ça à 23 ans.
C'est ça, à 23 ans, j'ai décidé d'arrêter.
Voilà, mais d'abord, t'as commencé ta carrière professionnelle très jeune.
17 ans.
17 ans seulement. L'avantage, c'est que ton coach... C'est un organisateur,
c'est
même THE organisateur de combat en France, à ce moment-là, le 100% Fight. C'est un pionnier de l'organisation de toute façon. Et en termes de nombre d'événements, tout ça, je pense, aujourd'hui encore, hein, qu'il est largement devant Hatch. C'est un événement dans lequel, toi, tu grandis pendant que tu construis ta carrière de combattant, pendant que tu es encore très jeune. Donc, j'imagine que tu bosses sur l'événement aussi. Moi, j'ai des gars, notamment Antoine Simon, qui me disent qu'ils t'ont vu à la buvette, par exemple.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que ça nous... Ça nous marquait. Moi, je voulais voir. On n'avait pas aussi les moyens de payer aussi à cet âge-là, de payer un billet pour regarder les combats. Ouais. Et Hatch, il nous a ramené dans les galas. Il nous faisait travailler dans les buvettes, tout ça. On pouvait voir plein de combattants. On pouvait voir Francis Ngannou. On pouvait voir Zoumana Cissé. À l'ancienne, il y avait Tchèque Kone aussi qui performait. Donc, on a pu voir plein d'acteurs comme ça qui nous ont inculqué des choses, qui nous ont marqués. Et c'est ça qui fait...
Ouais, c'est ce cocon familial à Tchacadémie où tu te dis, c'est des gars là comme on fait n'importe où en boxe thaï, en kick et tout, où c'est les combattants qui font la buvette, l'autre qui fait le truc, mais en même temps, c'était le plus haut niveau du MMA français ou européen en fait.
Non, c'était incroyable, c'était des souvenirs, c'était des bons souvenirs même, parce qu'à l'époque, on voyait plein de combattants, j'ai pu rencontrer plein de combattants aussi.
Ouais.
Et non, c'était incroyable.
Et t'avances là dans ta carrière, tu prends de l'âge et tout. T'as commencé à 17 ans, tu en as 28 aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens quand même du feeling de se dire, là, tu vas combattre au 100% Fight chez toi, devant tes potes, ta famille, dans une organisation dans laquelle t'as grandi, en fait?
Ouais, si.
Il y a de la peur, il y a de la pression, c'est comment?
Ouais, il y a de la peur, il y a de la pression. Mais après, quand t'es jeune, le fait de faire beaucoup de combats en amateur, devant des publics, devant tout ça, ça te prépare déjà à des grands événements. T'as cette énergie-là, cette émotion-là que t'es obligé de rencontrer, ce stress-là, qui va te délivrer après, au fur et à mesure des combats. Et je pense que c'est important pour chaque combattant de traverser tout ça.
Oui.
Le côté amateur, parce que ça ramène du public. Après, t'auras moins de stress face aux gros événements.
Ouais, il y a de toute façon le passage par les amateurs, c'est important.
Hein, c'est important.
Il faut construire en tant que combattant, il faut apprendre certaines choses, il faut mettre en pratique ce qu'on a vu à l'entraînement, mais dans un cadre un peu où on a moins de maîtrise. Maintenant, c'est vrai que l'amateur aujourd'hui, j'imagine que tu l'as vu, ça prend une place.
Ouais, ça prend une place de fou.
Trop de place.
Ça a bien évolué. Non, ça prend. Je pense que c'est une bonne chose même. C'est une bonne chose pour les MMA, pour les MMA français. Et je pense que le MMA, il se développe encore plus.
Ouais, c'est vrai que la Fédé fait un bon boulot. Hein. Maintenant, on a le championnat de France, enfin, on a les IMAF, évidemment, qui permettent aussi aux organisations de signer des gros talents. Donc, c'est vrai que l'amateur que toi, t'as fait, ça n'a rien à voir.
Ouais, ça n'a rien à voir.
C'est ce qu'on a aujourd'hui.
Mais ça n'a rien à voir, mais c'est à peu près pareil. Hein. C'est à peu près pareil. Hein. Voilà, nous, à l'ancienne, personne ne se refusait aussi. Maintenant, les amateurs, ils ont l'impression que c'est plus des professionnels.
Il y a un peu de gestion de carrière.
Oui, un peu de gestion de carrière, alors que nous, on était délaissés. Donc non, c'est un plus pour eux qu'il y a un encadrement. Il y en a, j'espère que ça va arriver jusqu'à l'INSEP, où il y aura une structure pour le développement des jeunes, pour développer déjà leur carrière et leur après-carrière. Ce qui est important, c'est important d'être stable et de créer des bonnes choses.
Ouais.
Et même préparer les jeunes amateurs en interview, préparer à tout ça. Tout ça, c'est important.
C'est quelque chose que toi, t'as pas connu. Toi, en fait, on t'a jeté un peu dans le grand bain. Les caméras sont arrivées.
Je vais apprendre tout seul. On n'a jamais eu de... c'est pas comme le football, ils ont des cours d'éloquence ou... Ils ont une éducation par rapport à tout ça. Nous, on est délaissés à nous-mêmes. On apprend vraiment dans le tas. Mais je pense que c'est la meilleure école aussi. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, voilà, évidemment, on voit la progression, tout le monde le sait. Par rapport à tes premières interviews, aujourd'hui, on est là en train de discuter tranquille. Et c'est vrai que avec l'expérience, on dit, aujourd'hui, moi, je vois des amateurs qui arrivent un combat, mais par contre, il te fait un discours.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, le mec, on dirait qu'il combat l'UFC, quoi.
Bah, c'est ça qui est important, c'est ça qui est incroyable. Je pense que c'est ça qui a fait partie du développement. Je pense qu'on a tous fait partie du développement, nous, les combattants, comme Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, moi, Farésia, mais tous les autres. On a apporté cette lumière-là au MMA, ouais. Et ça va leur préparer, ça va préparer leur carrière, même... se vendre au grand public.
Ouais, il y a la première génération, évidemment, de pionniers français. On peut en citer plein. Hein. Je vais pas, si je commence à les citer, je vais en oublier. Donc, il y aura peut-être des vexations. Donc, je ne vais pas annoncer dedans. Mais on sait qu'il y a cette génération. Ensuite, vous arrivez, vous êtes dedans. On est en train de vivre cette génération, peut-être même l'âge d'or du MMA, actuellement, en tout cas, puisque on a plein de combattants de très, très haut niveau dans plusieurs organisations. Et vous ouvrez, vous ouvrez un petit peu le chemin pour ceux qui arrivent derrière. Mais le 100% fight, ça a vraiment vu passer... la plupart des stars d'aujourd'hui, d'ailleurs, toi, t'en as affronté quelques-unes, puisque t'as affronté Morgan Charrière, t'as affronté William Gomis, tu remportes deux tournois, le 100% Fight Contenders, puis le 100% Fight, en battant Morgan Charrière en finale. À l'époque, je sais que vous savez qui est qui, tu t'imagines que vous allez tous vous retrouver au plus haut niveau comme ça ?
Ouais, on va dire ça comme ça, parce qu'on à l'époque, tout le monde était fort aussi.
Ouais.
Il y avait Farésiam, il y avait Morgan Charrière qui performait, il y avait William Gomis, il y avait tous ces combattants-là qui voulaient réussir. Et quand on réussit, même si c'est pas fini, parce qu'on est au tout début de notre carrière, ouais, c'est ça, on est dedans, ouais. On est dedans à fond, même si on est jeune.
Ouais.
Mais voilà, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose.
Non, c'est parce que vous avez écrit l'histoire aussi de cette organisation, qui est importante, moi je pense, en tout cas pour la France, pour le développement du MMA français, qui a été très importante et qui continue de l'être. Et puis... de voir ça, personne ne pouvait s'imaginer que derrière, voilà,
c'est
ça vrai. Performe partout dans le monde,
ouais,
à l'international, c'est fou.
Vrai. Mais après, faut travailler à fond et faut rester toujours constant, toujours dans ce milieu professionnel jusqu'à l'après-carrière.
Jusqu'à, ouais, c'est clair. Mais après le 100% fight, à 19 ans seulement, tu signes au KSW.
C'est ça. 19 ans et demi à peu près.
Est-ce que tu sais ce que c'est, KSW?
J'avais vu quelques vidéos, donc je savais que c'était une grosse organisation. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de grosses organisations. Il y avait le M1, le KSW, et le Bellator,
ouais.
Et l'UFC. Donc c'était, on va dire, les quatre grosses ligues du MMA. Donc quand j'ai eu l'opportunité de signer au KSW, c'était fou. Mais après, à l'époque, j'avais 9-0, je crois.
Ouais.
J'avais 9-0, donc j'ai signé en tant que, on va dire, le petit français qui va se faire démolir, parce qu'à l'époque, le MMA, c'était pas encore légalisé en France.
Non, bah ouais.
Donc c'était
tu prends crasse, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était un peu compliqué. Après, j'ai fait du MMA, je partais en Chine.
Oui, exact.
Trois fois. Donc j'ai fait des combats aussi en Belgique. Mais je te disais, ouais, c'était un peu compliqué, nous, les combattants français, parce qu'on avait ce côté-là, comptage de points, où il fallait pas trop finir à la décision, parce qu'on risquait de se faire voler.
Ouh là là,
oui. Il y avait beaucoup ça aussi. Mais j'ai réussi à installer mon jeu et mon rythme. Et depuis, ça fait quasiment 8 ans. 8 ans, ouais. que je suis là-bas. 8 ans que
Mais,
je suis champion.
Quand tu signes le KSW, il y a d'autres organisations qui te veulent aussi, qui t'ont déjà repéré?
Ouais, il y avait déjà, quand j'avais 9-0, je sais qu'il y avait le KSW, l'UFC, tout ça.
Ils étaient déjà là?
Ouais, c'était déjà là.
Ouais.
Ils étaient déjà là, mais le KSW, c'était un bon départ pour moi.
Ok.
Et puis après, j'ai performé, je suis resté aussi. Et puis après, les propositions, elles ont grimpé. Et...
Ça va vite. Parce
et les
que...
chiffres aussi, donc
ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va vite, parce que tu en 4 combats seulement, tu es déjà en position de combattre pour une ceinture.
C'est ça.
Alors que, encore une fois, hein, t'es très jeune, 19-20 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tes premiers souvenirs de la Pologne, de l'ambiance, des stades, des shows et du public. Parce que, on va pas se mentir,
ouais.
Un petit mec du 9-3 et ouais, tout, là, on a des Polonais tatoués,
ouais, c'est compliqué, rasé. c'est compliqué. Mais ça va, tu sais, quand tu viens de Bervilliers, t'as pas peur d'aller en Pologne.
Ouais, ouais. Écoute,
c'est plus une force. On a vécu plein d'émotions. À plein de choses, on vient vraiment d'un quartier dur ou d'un quartier difficile, donc on est confronté à plein de choses, on a vécu dans une cité, donc on voit plein de choses qui nous font pas peur. Quand on va là-bas, c'est comme si c'était la maison.
C'est normal.
Ouais, c'est normal.
Mais c'est vrai que, bon, voilà, au début, j'imagine qu'on t'adopte pas comme ça, le public. Aujourd'hui, non. T'es très populaire en Pologne, y a pas de souci. Mais à l'époque, enfin voilà, t'es juste un petit black qui vient de la banlieue parisienne et qui arrive comme ça. Tu
vois, c'est la performance, hein, la performance sportive. C'est beaucoup de travail. Donc, moi, je savais que grâce à l'acharnement et le travail que je fournis à l'entraînement, ça va payer, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, ça a payé. Je suis très content. Au début, premier combat, c'est vrai que c'était compliqué parce que j'arrivais dans une structure, on va dire, vraiment professionnelle qui était waouh, qui était incroyable. Les stades, c'était full, c'était rempli. Et à l'époque, j'affrontais la star Rajewski, qui était un gros nom en Pologne. Donc, ils m'ont pris, on va dire, vraiment, on va lui mettre lui. Et il va perdre.
Ah, je pense que c'était un combat de prépa pour lui.
C'est ça, et finalement j'ai gagné mon premier combat au KSW. Puis après ils m'ont mis Arthur Sonoski.
Ouais, exact.
Qui va affronter Conor McGregor, tout ça. Ouais. Donc c'était un bon challenge pour moi, puis après j'ai gagné tous les autres combats.
Ouais,
j'ai perdu un c'était contre ma défense de ceinture contre Torres.
Ouais, exactement. C'est avant ça quand même, enfin Tu arrives à gagner la ceinture par intérim, à 21 ans, puisque Mateusz Gamrot, il part.
C'est ça.
Il va à l'UFC, il y est toujours aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Ensuite, effectivement, tu vas perdre contre Daniel Torres, c'est ta première défaite de ta carrière. Mm-hmm. T'as perdu en amateur ?
J'ai perdu une fois, ouais.
Ok, donc ta deuxième défaite de ta vie, quoi.
Ouais.
Sauf que c'est ta première défaite en professionnel. C'est une défaite surprise, parce qu'en plus, c'est par arrêt de l'arbitre, il te touche assez rapidement.
Moi, je le prends comme une défaite, hein. C'est une défaite, c'était...
Ouais, de toute façon, c'est voilà, tu pas de souci, hein, évidemment, il te touche, l'arbitre arrête, et puis il n'y a pas grand-chose à dire de plus. La question, tu me vois venir, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on prend sa première défaite comme ça, alors qu'on est champion, qu'on a atteint un premier step, et d'entrée de jeu, tu perds la ceinture ?
Bah, moi, ça m'a donné plus une détermination, que voilà, tout peut arriver, jamais sous-estimer ses adversaires. Peut-être que je l'avais sous-estimé.
Ouais, ce que je veux dire, tu l'as sous-estimé, tu penses ?
Non, j'étais plus jeune aussi, j'étais plus fougueux.
Ouais.
J'avais cette fougue-là où je voulais tout casser dès le premier round. Là, je suis plus stable, je pense que ça m'a permis de me construire et d'apprendre en humilité aussi dans les combats. Donc non, ça m'a plus performé.
Ouais. Ouais, ça t'a recentré. De toute façon, la plupart, tu sais, dans le monde moderne des sports de combat, le zéro, l'invaincu, ça prend une place.
Ouais,
je sais que t'es fan d'anglaise, on y revient tout à l'heure, mais en dehors de Mayweather et de quelques autres, on sait que les plus grands combattants ont perdu.
Bah
en
oui,
fait, perdre,
oui.
Ça fait partie du combat.
C'est ça,
tu vois.
C'est normal, c'est normal. Des fois, on fait des erreurs et c'est comme ça.
Hein. Ouais, et puis des fois, on tombe sur plus fort, puis des fois, enfin voilà. Il y a quand même pas mal de gens qui sont tombés sur plus fort que tu sont tombés sur toi.
Ouais, bah oui.
Tu vois, c'est des choses, je pense, qui font partie du chemin. Et je crois aussi que c'est important en termes d'éducation des plus jeunes, des fans, de leur faire comprendre que c'est pas parce que tu perds que d'un coup, tu deviens plus rien, que t'es nul et que tu ressembles plus à rien. Est-ce que t'avais reçu des premiers messages négatifs après cette défaite-là ?
Non, j'ai reçu des messages négatifs comme positifs, mais je faisais vraiment pas attention à tout ça. Moi, j'étais vraiment focus sur le plus important. C'était de gagner mes combats et de performer.
Oui, récupérer
cette ceinture et de toujours performer malgré cet échec-là.
Il n'y a pas de revanche immédiate, tu fais un combat d'abord.
Je fais un combat d'abord.
C'est votre choix ou c'est le KSW ?
Non, c'est le KSW.
C'est pas nous. Toi, tu voulais le reprendre tout de suite, évidemment.
Moi, je voulais jouer la revanche tout de suite, mais ils n'ont pas voulu, donc du coup, j'ai dû faire une défense. J'ai dû faire un combat avant. Que j'ai gagné et puis après j'ai regagné ma ceinture.
Exactement, tu prends ta revanche.
C'est ça.
Par décision, t'aurais préféré le terminer ?
Ouais, j'aurais préféré le terminer. Hein. Quand tu termines, c'est mieux, mais c'était pas plus mal aussi. J'ai fait beaucoup de dégâts, donc non, c'était bien.
J'allais dire, moi, tu sais, il y a un débat. Moi, je dis souvent dans mes émissions que je préfère, à titre personnel, en tant qu'ancien combattant et de coach, je préfère avoir une domination totale sur la durée d'un combat pour dire je suis plus fort que toi. Plutôt que de gagner en 10 secondes et tu vois.
Ouais, c'est différent.
Si tu préfères lequel ?
J'aime bien les deux. j'aime bien les deux.
Parce que le sentiment de montrer à son adversaire, je suis bien plus fort que toi dans tous les domaines, en fin de compte. Tu vois.
Pour moi, le plus important, c'est de gagner son combat.
C'est vrai.
Peu importe, le plus important, c'est de gagner parce que les gens, ils retiennent que la victoire.
Et c'est dommage.
Ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça.
Ouais, parce que tu peux faire un très bon combat dans la défaite, justement. Sa deuxième défaite, ta seule autre défaite de ta carrière, c'est quand t'as voulu être grand, comme on dit. Mm-hmm. T'as voulu faire quelque chose d'assez inédit, parce qu'entre-temps, t'es devenu double champion. T'es parti chercher la ceinture en poids léger. Mm-hmm. Et derrière, t'as voulu tout de suite aller chercher la ceinture de la catégorie du dessus à 77 kilos. Il y a un gros gap. Hein. Ouais, quand tu viens des 66, tu prends la ceinture à 70. Là, tu vas chercher quelqu'un 7 kilos plus haut. Et je parle de 7 kilos plus haut, c'est à la pesée.
C'est ça.
Quand on regarde Adrian Bartoszynski,
non, il est plus lourd.
On se rend bien compte qu'il ne fait pas 77 kilos le jour du combat. Donc on savait qu'il y aurait une différence physique entre les deux. Malgré tout, et malgré une frayeur sur un genou que tu envoies au tapis, ça va au bout, tu finis même le combat plus fort. Et je pense qu'il a un petit peu chaud à la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de cette défaite-là? Parce qu'elle est quand même très différente de la première.
Non, cette défaite-là m'a beaucoup appris. Je sais que je peux affronter n'importe qui. J'ai traversé une grosse tempête pendant le coup de genou, mais j'ai beaucoup appris quand j'ai à être touché, on va dire travailler quand t'es touché, donc les réflexes y reviennent. Non, ça m'a forgé même, et j'ai moins cette peur là quand j'affronte des adversaires qui sont de ma catégorie ou en dessous.
Ouais, il y a quelque chose que tu penses qui t'a manqué pour pouvoir aller chercher cette troisième ceinture sur ce combat-là?
Peut-être je l'ai trop respecté un peu trop à mon goût. Mm-hmm. Je pense que j'aurais dû moins le respecter, être plus sauvage.
Ouais.
Plus sauvage dans mes coups, plus agressif dans mes techniques. Donc c'est plus ça. J'ai trop respecté l'adversaire et j'aurais pas dû. Mais comme je te dis, c'est voilà, j'ai appris.
Ouais.
J'ai appris et j'en tirerai une bonne leçon.
Et puis, qui sait, peut-être que demain, tu le réaffrontes. Et...
Ouais, peut-être. Hein, peut-être, qui sait. D'abord, il faut que je gagne mon prochain combat
déjà
contre Marcin Held.
Ouais.
Puis après, on verra ce qu'ils veulent faire.
Toi, c'est quelque chose que tu demanderais si tu avais le choix, enfin, tu vois.
Franchement, moi, je prends tout. Hein.
Ouais.
C'est plus H qui gère ça.
Mais la perspective de dire je suis champion dans 3 KT.
Mais moi, ouais, ça me convient. Après, est-ce que ça leur convient? Je sais pas. Tout va dépendre. Après, j'en discute beaucoup, mais c'est quand même. C'est un sport individuel, mais c'est un sport aussi d'équipe. Donc, on communique beaucoup, nous, avec la Hatch Academy. Donc, je communique avec mes entraîneurs, Arnaud Templier, Boris Johnston, tout ça. Donc on sait pas. En plus, il me reste quasiment 2 combats dans mon contrat.
Ouais.
Donc on verra.
Il te reste 2 combats sur ton contrat. Il y a aussi une notion de durée, non?
Je sais même pas.
Il me semble aussi. En tout cas, il te reste 2 combats, toi,
c'est
à l'heure actuelle. Donc après celui contre Marcin Held, normalement, il t'en reste un seul.
C'est ça, normalement.
Bah, ça devient intéressant.
Normalement, un seul ou 2, je crois, je sais plus.
De toute façon, c'est la performance qui va donner les options.
On oublie des fois, mais ce sport, il est dur, il est difficile. Hein. Une défaite, et toute ta carrière est remis en question, donc... Voilà, c'est le plus important, c'est de ne pas sous-estimer ses adversaires, être à fond dans le combat et gagner ses combats. C'est le plus important. Après, les gens, ils oublient.
Oui, c'est vrai.
c'est
un sport à la mémoire très courte.
Ouais, c'est comme la défaite avec Zebo Baki. Les gens, ils oublient ce que Baki a fait auparavant.
Ouais.
Bah après, il y a eu le côté trash talking, tout ça.
C'est ce que j'allais dire. Évidemment, Baki, on sait tous à quel point c'est un excellent combattant. Là, je crois que c'est plus lié au trash talk
que
sa carrière, ce qui s'est passé.
Mais je pense que c'est rien du tout, il va rebondir.
Ouais. C'est une carrière, c'est long. Ouais. Il est encore plus jeune, lui.
Bien sûr. Bon, il a
22 ans. Enfin, il a largement le temps. Pour revenir sur toi et sur ce que tu as fait, avant d'aller tenter cette troisième ceinture, tu es devenu double champion.
Mm-hmm.
Double champion, tu sais, moi, ça fait longtemps maintenant que je suis de sport, parce qu'on n'a pas le même âge, toi et moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. Avant, on avait des champions qui étaient champions dans leur catégorie, qui défendaient des 5 fois, 6 fois, 8 fois. Et puis, il y a un Européen, un petit peu du Nord, là, un Irlandais, qui est arrivé, Conor McGregor, et qui est devenu double champion du cage, qui avait l'opportunité, l'objectif d'être double champion de l'UFC, c'est ce qu'il a fait. Et je crois que ça a tout changé derrière, que c'est devenu quelque chose de très important d'être champion dans 2 catégories, d'être double champion d'une organisation. Est-ce que ce qu'il a fait, ça a pesé, toi, sur ton parcours personnel?
Ça a pesé pour tous les combattants. Il a eu l'image phare du MMA. C'est lui qui a révolutionné le sport, quasiment. Ouais. Donc, ça a beaucoup percuté dans mon, Bah, en tant que combattant, être ouais. double champion, ça a été le rêve de tout le monde. Une fois que Conor McGregor a été double champion du Cage Warrior, double champion de l'UFC, ça a été inspirant pour tout le monde. On voit même avec Topuria, il limite.
C'est vrai.
Il limite McGregor
il pas le dire,
son, pendant dans son entrée. Non, c'est. Mais McGregor, c'est McGregor.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu un McGregor, et puis derrière, on a vu hein, que la plupart des top combattants européens, vous avez essayé en tout cas, et à succès pour toi, de reproduire ce qu'il a fait dans une organisation européenne, en tout cas d'être double champion. Et ce qui permet à la fois d'écrire sa légende, hein, son legacy, comme on dit tous, mais aussi, et on l'a bien vu avec Conor, même si lui, ça dépasse toutes les espérances, en termes financiers, ça a complètement ouais, ça... explosé. Donc, derrière, en allant plus loin, puisqu'il te reste deux combats, ou un combat, c'est selon après le combat contre Marcin Held, est-ce que c'est cette notion de legacy qui va te guider dans le choix de faire cette troisième ceinture, puis de voir tes options? Ou est-ce que, bah, évidemment, il y a toujours cet aspect financier qui va se dire « Bon, vous êtes gentil avec ce qu'il a fait McGregor, mais en fin de compte, moi, je fais du combat aussi pour mes primes et pour mettre ma famille à l'abri, et en fait, ça va compter plus. »
Ouais, non, c'est ça dépend comment on voit les choses. Moi, en tout cas, personnellement, quand je dis « il me reste deux combats », là, je sais que je suis plus structuré, je suis plus stable dans ma façon de penser et même dans mon bien-être. Donc, on verra. On verra ce que l'avenir nous dira, mais c'est sûr que ça a été inspirant pour nous tous quand McGregor a eu deux titres, qu'a fait ce qu'il a fait, mais McGregor, ça reste McGregor.
Ouais, ouais.
Il n'y a que lui qui a fait ça, il n'y a personne d'autre qui a fait ce qu'il a fait. Donc ouais, c'est totalement différent. Là, je suis plus stable, c'est certain. Donc,
par rapport à quand tu viens, quand tu as signé ton contrat, là, il y a deux
ans. C'est ça. Là, je peux plus me projeter sur le futur, sur d'autres organisations.
Quand tu dis plus stable, c'est-à-dire en termes de ce que tu as fait avec...
En termes de ce que j'ai construit, en termes de stabilité humaine.
Ouais, ok.
Je suis plus stable, familial, tout ça. Comme on a dit tout à l'heure, on vient d'un quartier assez difficile, on n'est pas tous des Herman Sarrocan.
Bien sûr.
On n'a pas des parents qui sont super riches comme Herman Sarrocan, ouais. Surtout nous, qui vient d'Aubervilliers. Donc ouais, là, en termes de maturité, bah, je suis plus stable en tant qu'homme. Donc tout se discutera. Et...
T'as construit ta vie de famille.
C'est ça.
Financièrement, t'as pu faire fructifier, t'as pu te mettre à l'abri, construire des choses pour toi, pour tes proches, pour ta stabilité, comme tu l'as dit, donc financière et psychologique, hein, émotionnelle. Tout va avec. Je vais te poser la question un peu de but en blanc, mais ça veut dire que demain, en négociation, tu pourrais peut-être accepter moins pour pouvoir aller, par exemple,
bien
à l'UFC.
Bien sûr.
C'est quelque chose qui rentre plus en ligne de compte qu'il y a deux ans.
Bien sûr. Ça n'a plus rien à voir.
Ouais, ok.
Parce que depuis l'année dernière, et là, le nouveau contrat, ouais. Non, ça n'a rien à voir.
Ok. Non, c'est important parce que il y a de la cohérence, je trouve. Ouais, moi, je veux bien critiquer
après,
tout le monde.
Mais... Comme j'ai dit, je pense qu'on est des exemples aussi pour les jeunes et pour tous ceux qui font du MMA. S'assurer une sécurité, c'est important. Être bien structuré, avoir une bonne team, des gens importants, être loyal aussi, être humain, c'est ça le plus important. Donc là, je sais que je suis plus stable, je suis plus construit. Mm-hmm. Donc tout va jouer là.
Ouais, en fait, il y a eu un choix à faire il y a deux ans et tu as vu la perspective de pouvoir construire cette stabilité. Mm-hmm. Ce que tu as fait, tu as pris l'opportunité, tu l'as faite. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu vois les choses complètement différemment et tu te dis, c'est fait. Maintenant, je peux aller vous choquer là-bas.
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Bah, écoute, bon, en tout cas, on verra bien ce que l'avenir réserve. Mais pour rester là-dessus, c'est important parce que c'est un petit peu un choix contre vents et marées. Tu l'as vu comme nous. Je me rappelle qu'avec Alexandre Armin, à l'époque, on t'avait reçu dans le Fighter Club, juste après la signature, pour pouvoir apporter des éléments de réponse, parce que ça a généré beaucoup de frustration auprès du public, auprès des gens
normal,
qui te suivent.
Normal, ouais. Mais ça peut... Ça
c'est
peut,
quelque chose que tu comprends.
Ouais, ça va toujours créer de la frustration, c'est comme ça. C'est, ouais. Tout le monde va se faire critiquer. Mmh. Et c'est comme ça, il faut juste bien le prendre et s'entraîner, être vraiment focus sur son travail. C'est vraiment focus sur ce que tu veux, sur ce que tu te fixes. C'est ça le plus important. Après, les autres, les gens vont toujours parler. Hein.
Ça t'a jamais fait douter.
Non, jamais. Je fais vraiment pas attention à tout ça. Vraiment, moi, je suis dans ma bulle. C'est ça le plus important. Le côté familial, être bien avec sa famille, c'est ça le plus important.
Ouais.
Offrir des bonnes choses. voilà, faire découvrir d'autres choses à d'autres personnes, créer des émotions avec d'autres personnes, avoir du partage avec des gens. Et moi, avant tout, je suis humain avant tout, donc c'est ça le plus important.
Oui, bien sûr.
Après, le reste, c'est que
des choix et qu'il faut assumer. De toute façon, les choix, c'est ça.
Et les réseaux, faut les couper. Hein,
oui, parce que les réseaux, c'est compliqué. On peut pas. C'est pareil. C'est des choses qui reviennent tout le temps. L'histoire d'affronter des plombiers, des machins.
Ouais,
des
ça, c'est un faux.
Ça, pareil, ça te touche pas du tout.
Non, pas du tout. On fait du MMA. Ouais. Il y a les MMA, c'est dur. Peu importe qui t'affronte, tout le monde peut te mettre KO. Donc non, faut rester vraiment focalisé sur son travail. Jamais sous-estimer son adversaire. Et même pour les plus jeunes, je pense que c'est important pour ceux qui vont se lancer dans le pro, de leur donner comme exemple ce parcours-là aussi, c'est important. Parce qu'il y en a plein qui sortent des quartiers difficiles comme moi. Mm-hmm. Et d'avoir cette structure-là, d'avoir un encadrement-là, c'est quelque chose de très important. Là, on le voit avec d'autres combattants qui sont de la Hatch Academy. Et je suis un peu leur modèle. Et c'est même ça qui me pousse à travailler et à me dépasser chaque jour.
Pour montrer qu'il y a une voie
sportive, totalement
professionnelle.
Totalement différente et une stabilité à se construire parce qu'il y a la réalité des choses.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Par les réseaux. Vraiment, la réalité des choses, c'est quand tu rentres chez toi, t'es tout seul. Tu penses tout seul, t'es livré à toi-même et c'est toi et tes actes.
C'est pas le tweet qui va remplir
non,
le
frigo. Non, du tout.
Ouais, c'est clair. Du coup, par rapport à ce qui pourrait se passer, pour finir sur l'avenir sportif potentiel, est-ce que tu ressentirais de la frustration si tu devais poursuivre et finir ta carrière sans aller à l'UFC ?
Non, aucune frustration.
Non ?
Aucune frustration. Non, c'est... On verra après.
Ouais, bah oui.
Je suis jeune, donc c'est dur de...
Bien sûr.
C'est dur de se projeter sur le futur. J'ai 28 ans, donc non, il y a plein de choses encore à découvrir.
Ouais.
Et j'ai plein de choses à faire encore dans ce sport.
Accomplir les objectifs, mais surtout les rêves. C'est ce que tu as fait récemment, d'ailleurs. Tu t'es fait un bon délire parce que tu es fan de boxe anglaise.
C'est ça.
Toujours, tu kiffes. Et tu t'es fait ton kiff.
Ouais,
parce que boxé.
Je pouvais me le permettre aussi.
Exactement. Donc, c'est ce contrat qui t'a permis, justement, avec le KSW, de dire OK, nous, on veut bien que tu boxes en anglaise. Hatch, t'as organisé un bel événement, je tiens à le dire, parce que juste l'undercard, c'était que du top niveau en termes de boxe anglaise en France. Hein. Des très beaux boxeurs qui ont combattu dans cette carte. Et puis, toi, donc, t'as pu affronter Franck Petitjean et réaliser ton rêve.
C'est ça, c'était notre passion.
Ouais, c'est comment de se dire, ça y est, j'ai fait la même chose que mes héros un petit peu de la boxe anglaise.
Ouais, c'est des émotions incroyables, hein, c'est une sensation incroyable. Faire de la boxe anglaise, pour moi, ça m'a toujours tenu à cœur. Parce que j'aime ce sport, j'aime cette difficulté-là. Et ça a toujours été les boxeurs qui m'ont plus inspiré qu'un combattant d'MMA. Parce que comment ils se vendent, comment ils font rêver les gens, c'est incroyable.
On va pas se mentir, c'est quand tu regardes une grande soirée de boxe,
c'est
une grande soirée de MMA, c'est pas pareil.
Non, c'est différent, mais pour moi, c'est à peu près la même chose.
C'est vrai ?
Moi, je mets
une grande soirée de boxe au-dessus.
Non, ça dépend, ça dépend. Quand t'as vu que Conor, Khabib...
C'était des soirées de fous, mais rien, juste Crawford Canelo, là, récemment.
Ouais, même José Aldo aussi, José Aldo Conor.
C'est vrai.
D'un coup, l'émotion, le KO qu'il a mis, non, c'était...
Moi, c'est un mauvais souvenir. Mais...
On peut pas dire non. Et pour moi, c'est pareil, mais... je voulais, moi, en tout cas, personnellement, je voulais faire ce combat de boxe anglaise, parce que j'avais un truc à me prouver à moi-même, déjà. Je savais que j'avais une grande condition en boxe anglaise et je voulais le prouver sur le ring en affrontant Franck Petitjean et c'est un bon adversaire et j'ai réussi à gagner ce combat.
Je vais pas te poser la question pas ouf, je trouve, de se dire est-ce que t'as pas eu de mal à pas faire de takedown ou je sais pas quoi, d'envoyer les gens.
Non.
Je sais que ça va, y a pas de souci là-dessus. Moi, c'est plutôt en termes de sensations, les premières secondes, la première minute en fait, où t'es là, t'es en train de boxer en fin de compte. T'as combattu dans des stades en Pologne, y a pas de souci. Mais là, t'es dans un ring en train de boxer.
Avec des petits gants.
Avec, ouais, voilà.
Là, taille 10.
Exactement, t'as de la taille 10, c'est différent. Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension au début ou quelque chose qui t'aurait peut-être bloqué ou, tu vois ?
Non, pas de l'appréhension, mais juste peur de mal faire. Peur de mal faire et peur de pas me retrouver dans ce domaine-là. Mais j'ai réussi à me retrouver. Et j'aime cette sensation-là de bien faire les choses. Donc là, on les a bien fait. J'ai performé. J'avais fait une grosse préparation en boxe anglaise. J'avais vraiment accentué sur ce côté-là. Donc j'ai fait beaucoup de sparring en boxe anglaise. Ouais. J'ai fait des sparring avec Bakary Samaké, d'autres boxeurs. Je suis parti chez Aziz Alab, que je remercie aussi dans cette interview, parce qu'il m'a beaucoup apporté dans mon jeu d'anglaise. Et Arnaud Templier qui m'a ramené chez Aziz. Et après, on a pu travailler plein de choses avec plein d'adversaires différents, parce que là-bas, c'est une grosse structure en boxe anglaise. J'ai pu faire des grosses sparrings. Mm-hmm. Donc, ouais, ça m'a beaucoup apporté. Je pense que ça a élargi mon jeu en termes de striking.
Oui.
Là, j'ai plus les appuis au sol. Je sens que je fais plus mal sur les points maintenant qu'avant. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup apporté.
Au-delà de réaliser son rêve et de se faire son kiff, comme on dit, il y a aussi un gros apport pour la suite de ta carrière en MMA.
C'était plus un avantage pour moi d'être pied à plat, de frapper plein pot.
Ouais.
C'est ça qui me manquait aussi dans mon jeu, même si j'ai gagné mes trois derniers combats, on va dire, par KO et TKO, ouais. Mais ça me manquait un peu ce côté difficile, ce côté de dureté avec les poings, de remettre la garde au bon moment, d'avoir ce petit coup d'œil, de placer ses coups au bon moment. Il me manquait un peu ça et j'ai pu le travailler, le développer.
Est-ce que tu es capable de dire si tu as pris plus de plaisir dans ce combat-là que... dans un combat de MMA où tu t'es bien amusé?
C'est difficile. Les deux, franchement, les deux, je prends du plaisir. Tu sais, moi, quand je rentre dans la cage, c'est plus un moment où je me dis que je dois briller. Ouais. Chaque combat, ça me fait briller. Et je travaille aussi pour ça. Donc non, moi, pour moi, les deux, c'est pareil. Les deux, c'est pareil. L'objectif, c'était le même, c'était de gagner le combat.
Voilà, faut gagner. En fait, toi, la victoire.
C'est ça. C'est la détermination. C'était la détermination et la victoire avant tout. Donc c'est ça qui m'a donné cette grinta là, quoi.
Ouais, bah non, mais ça s'est vu, hein. Est-ce que c'est une expérience que tu aimerais renouveler avant la fin de ton contrat là?
Si je peux me le permettre, je le fais directement. Ouais. C'est des occasions à pas louper. Comme je l'ai dit, c'est grâce à mon travail que je suis arrivé à ce niveau-là. Et grâce au sacrifice que j'ai fait. Donc j'ai eu cette opportunité-là de boxer en boxe anglaise. Je sais pas si je l'aurai encore. Peut-être à la fin de mon contrat ou pas, on verra. Parce qu'après, je serai libre.
Ouais.
Donc on verra la suite.
Ça n'a pas allumé une petite envie de se dire à la fin de mon contrat KSW, allez, le MMA,
je pourquoi pas, s'il y a une occasion, je saute dans l'occasion, je saute directement. Hein.
Donc si on te propose, un promoteur vient te voir.
Je suis super chaud, ça peut tous nous changer. Hein. Ça, regarde Ngannou, ça l'a changé sa vie.
C'est vrai.
Ce qu'il a gagné en boxe anglaise, il ne le gagnera peut-être jamais en... Jamais en MMA.
C'est vrai. Donc, dernière fois que j'en parle, promis. Mais si t'as les deux contrats sur le bureau, UFC, anglaise. Avec des montants similaires, viens, on s'amuse.
Ah, des montants similaires?
Ouais.
L'UFC.
Ok. L'UFC. Donc quand même le MMA. Quand même.
Quand même c'est ma...
D'accord.
C'est ma passion, c'est mon sport.
Oui, j'entends bien.
Mais si les montants, il est incroyable en boxe anglaise, mais directement là en boxe anglaise.
Écoute, hein,
ça va changer ta vie.
Il y a un mec qui s'appelle Turki Al-Alchir, il est sur Twitter, il est sur Instagram, tu vas dans ses DM, appelle Bruno Suras. Et je pense qu'il peut te mettre en relation.
Non, mais c'est des bonnes sensations, en tout cas, les deux sports. J'aime bien. Vu sa passion, c'est incroyable. Donc, je le souhaite à tout le monde. Tu peux créer des émotions incroyables. Et quand tu commences à bien gagner ta vie, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Donc non, je souhaite à tout le monde. Moi, je dis que le travail, grâce au travail, tu peux créer plein de choses. Tu peux bien réussir ta vie dans tout. Du moment que tu es déterminé, du moment que tu travailles, les résultats qui payent.
J'imagine. Et puis, il y a de la gratification pour toi, pour tes proches, pour tous ceux qui te suivent. L'entourage sportif comme l'entourage familial, évidemment. Et c'est un entourage que tu gardes très proche de toi. Oui, tu as tes réseaux sociaux comme n'importe quel athlète professionnel. Mais en vrai, je trouve que tu arrives plutôt bien à mettre une cloche, à mettre ça un petit peu sous cloche et à garder ton intimité très, très près de toi. Et puis, en fin de compte, là, aujourd'hui, tu as fait quasiment toute ta vie dans 2 kilomètres, quoi.
Ouais, c'est ça. Les gens ne comprennent pas. Ils me disent, ouais, mais pourquoi ça n'est pas, il part pas aux États-Unis et tout ça. Mais je suis bien dans mon confort. J'aime pas bouger de mon confort.
Et après, tu l'envisagerais peut-être?
Je sais même pas. Moi, le plus important, c'est ici. J'aime bien être ici. J'aime bien être avec mes proches. J'aime bien côtoyer les gens que je fréquente. Pour moi, c'est le plus important. C'est avec eux que je partage ma vie et c'est avec eux que je me vois dans le futur. Et c'est ça qui me donne cette détermination, créer des émotions incroyables. C'est ça le plus important pour moi. voir l'éducation de ma fille ici en France, c'est important. Les structures qu'on a, c'est bien. Le développement qu'on a, c'est bien. Les jeunes, ils apprennent de nous. Et je pense qu'on est, on est les acteurs majeurs de tout ça.
Donc, ouais, non, c'est... aujourd'hui et peut-être demain. Est-ce que tu envisagerais, toi, d'être dans l'encadrement, de coacher peut-être ou...
Peut-être, mais pour l'instant, je suis plus sur l'encadrement sportif. Ouais. Je suis plus dans le côté sportif où... Ouais. J'ai encore performé mes compétences et mes combats.
28 ans aujourd'hui, tu te vois combattre jusqu'à...
40 ans, je pense.
Ah ouais, donc t'as encore le temps, là.
Ouais, si je me tiens en forme, hein. Si j'ai une bonne alimentation, si je fais attention à ce que je mange, si je fais attention à tout, je pense que ouais, si j'ai une bonne condition, pourquoi pas. Faire comme Yoel Romero.
C'est, ah oui, oui, ah, ouais, 45 ans, il fait encore de la lutte.
Il performe, il fait les combats main nue, il fait karaté combat, il fait tout là, il vient de gagner un truc en lutte.
Ouais, j'ai vu ça.
Une compétition en lutte là. Non, c'est...
Pourquoi pas, comme Bernard Hopkins, champion à
50 ans. C'est ça, c'est ça. Non, ils sont inspirants et ouais, même, ça se finit jamais.
Donc vraiment, toi, c'est carrière longue, même si t'as commencé tôt.
Toujours.
Pas de raison d'arrêter tôt.
Non, ouais, jamais.
Non, c'est bah écoute, tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire. Ouais. On profite du spectacle et c'est bien pour aussi, comme tu l'as dit, pour pouvoir inspirer beaucoup.
C'est ça.
Moi, pour cet endroit où on a grandi, ça a toujours été le sport. Le Seine-Saint-Denis, ça a toujours été le sport.
Le sport, ouais.
Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre.
Le sport, après, ça dépend. Moi, comme je dis, c'est dans tout. Je pense que. Si tu donnes les moyens de travailler à l'école, si tu veux devenir avocat, c'est le travail. Travail et s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai beaucoup appris dans le tas. Quand j'étais petit, j'avais l'encadrement d'un ami à moi. J'ai toujours essayé de m'encadrer des gens qui ont réussi. J'avais un ami à moi qui s'appelle Pierre. C'était un de mes premiers sponsors. Mmh. Donc, c'est moi, tout seul, je me suis entouré de ces personnes-là. En plus, on a plus des acteurs comme ça qui nous aident, genre comme Stéphane, comme mes amis que je fréquente. Parce que mon ami, il est agent immobilier, il tient la salle, donc ils sont dans les bureaux, donc t'apprends, t'es dans le truc. Moi, je suis toujours à la salle, j'avais toujours cette soif d'apprendre. Et c'est ça qui me construit.
Exactement. Et d'avoir cet entourage-là, comme tu l'as dit, qui te permet de regarder plus loin et d'apprendre beaucoup de choses. Tu l'as dit, t'as perdu ton papa quand même tôt dans ta vie.
C'est ça.
Il y a Stéphane qui est ton coach, qui est ton manager. Est-ce que aujourd'hui, enfin, l'impact, c'est quoi l'impact qu'il a aujourd'hui, Stéphane, dans ta vie quotidienne? Parce que c'est ton coach, mais ouais, la vie autour de ça.
Je vais pas dire comme un second père, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de lui, j'ai beaucoup appris de mes coachs. Humainement déjà, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils montrent, comment ils travaillent, ça a été inspirant pour moi. Et moi, j'ai toujours voulu réussir ma vie. Comme je les voyais plus grand que moi et plus vieux que moi, je me suis dit qu'il me fallait cette stabilité-là. Et à force d'être à la salle, de le voir dans les bureaux, tout ça, j'ai appris aussi dans le tas avec lui et mes amis aussi. Ouais. Que je fréquente, j'ai appris. J'avais un ami à moi qui s'appelle Pierre, qui est agent immobilier. C'est comme un grand ref, quoi. Tu vois, il est agent immobilier, donc il me ramenait un peu partout avec lui, dans ses prospections, tout ça. Et moi, j'étais là comme ça, je le regardais, j'allais avec lui. Donc...
C'est important, ouais, ça te fait apprendre.
Ouais, c'est important, ça t'éduque sur le côté financier, le côté même bien-être, même exemple. Ouais. Tu vois, je le voyais offrir des cadeaux à sa mère. Tu vois, c'est ça aussi qui a été inspirant aussi pour moi.
Ouais, bah oui.
Souhaiter des bonnes choses avant que le plus âgé nous souhaite, tu vois. C'est ça le plus important, c'est ces valeurs-là qui sont importantes et beaucoup de travail. C'est surtout ça, moi j'ai beaucoup travaillé.
Oui.
Même pour te dire une anecdote, quand j'étais plus jeune, j'avais à peu près 18 ans. Non, 18 ans, j'avais à peu près 17 ans. 17 ans ou 16 ans, je me suis donné à fond l'entraînement. J'avais pas vu mon père pendant 2 mois. Pendant 2 mois, c'est-à-dire quand je l'ai revu, j'ai commencé à pleurer, tu sais, les émotions, ouais, ouais. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. C'est-à-dire que tu revois ton père, il t'appelle, il dit tu passes pas me voir, tout ça. Donc, tu dis ouais, mais j'ai un entraînement, tout ça. Non, personne ne te comprend parce que t'es dans ta bulle, t'es tout seul, t'es livré à toi-même. Donc, tu te donnes pour réussir.
C'est beaucoup de sacrifices, on l'oublie, hein, quand on c'est vient ça. Juger comme ça la carrière.
Non, c'est dur. Mais au final, c'est des bonnes choses. Tu vois, c'est-à-dire que le fait que quand j'ai revu mon père, j'ai pleuré, il m'a pris dans ses bras. Et j'ai dit, ouais, papa, excuse-moi, ça, je suis pas venu, tu vois. C'est ça.
Ouais, après, j'imagine aussi qu'il doit avoir de la fierté pour lui, parce que, certes, tu ne l'as pas vu pendant 2 mois, mais il savait ce que tu faisais.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
À d'autres, où tu vois...
Mais il y a ce côté humain qui revient, ou ce côté émotion, tu peux passer par là. T'sais. Moi, j'avais combattu en Chine, je reviens de Chine, et j'ai quoi, j'ai à mon père, ouais, papa, j'ai gagné mon combat. Il m'a dit, ouais, merci, j'ai vu tout ça. Il m'appelle, il me dit, félicitations, tout ça. Et après, il me dit, bah, passe me voir. Et le lendemain, dès que je suis revenu de Chine, hein, c'était en France, et moi, avec le décalage horaire, j'étais fatigué. Donc, du coup, je dis, ouais, dès que je rentre, je passe te voir, mais j'ai oublié. Mmh. Et le lendemain, bah, il est parti, tu vois. Mmh. C'est comme je dis, c'est ces sacrifices-là qui font ce que je suis maintenant. Et les valeurs qu'il m'a inculquées, voilà, c'est beaucoup de travail. C'est ce que moi aussi j'ai envie d'inculquer aux plus jeunes.
C'est son héritage aujourd'hui,
c'est
maintenant.
C'est ça, c'est ça.
Qui t'amène avec toi.
C'est ça.
C'est important.
Et j'ai envie d'inculquer ça aussi aux plus jeunes, de travailler dur, de rester proche de sa famille, parce que le temps passe. Et le plus important, c'est de sortir des bonnes zones et des bonnes choses.
Oui, c'est clair, j'imagine. Puis c'est vrai aussi que d'avoir cette anecdote, parce que moi aussi, ça me fait penser à une anecdote d'un ami où je lui ai dit, on se voit demain, on avait préparé un pour un championnat du monde, il m'a dit, on se voit demain, et puis en fait, je ne l'ai pas revu.
Bah oui.
C'est dans un accident de la route. Donc c'est vrai que c'est des choses aussi que, encore une fois, on se permet des fois de juger les carrières des gens, de juger le personnage, en fin de compte, il se passe tellement de choses dans une vie,
il y a tellement de choses.
Que voilà, le sport, des fois, c'est ça, ça peut... C'est très...
Non, c'est pour ça que je dis, il faut rester sur l'essentiel.
Ouais.
Sur l'essentiel, c'est avoir des bonnes valeurs. Comme je dis, moi, le plus important, c'est d'offrir une bonne éducation à ma famille, de leur montrer une bonne image de moi. C'est ça le plus important. Et aussi à tous les Français qui me suivent.
Tous les Français qui te suivent, les jeunes, il y a des jeunes, très intéressants d'ailleurs, Kambouche, Souli Kaouchen. On a un jeune pas si jeune que ça, qui va débuter sa carrière MMA et qui vient de rejoindre la Hatch Academy, c'est Alexis Nicolas,
ouais.
Champion du One. Tu te sens une responsabilité auprès de ces gars-là?
Bah, Alexis Nicolas, il a déjà une carrière professionnelle en K1, donc lui, c'est autre chose. Mais pour les autres, ouais, je suis plus une inspiration pour eux. Et même, eux-mêmes, ils me poussent, et moi-même, ça me pousse à travailler plus dur, on se pousse l'un et l'autre, et les uns les autres, et c'est ça le plus important. Et leur permettre de transmettre des bonnes choses, c'est aussi important. Donc ouais, je suis un peu ce côté-là où je suis l'exemple à suivre.
On a vu qu'à l'entraînement, tu peux être très dur. J'ai des images du sparring avec ton frère en tête. Moi, j'ai un petit frère aussi. Hein. On va avoir des problèmes. Je vais attendre qu'il dorme s'il me fait ça. Je vais manger différemment. À l'entraînement, est-ce qu'un de ces jeunes-là, tu ressens quelque chose? Est-ce qu'ils arrivent à tenir un petit peu la dragée haute quand tu... J'imagine que tu vas appuyer un petit peu pour leur montrer ce que c'est et leur faciliter leur combat. Est-ce qu'il y en a un où tu te dis, ouais, lui, je sens que ça va être quelque chose qui va aller loin?
La vérité, ils sont tous forts.
Ouais.
Vraiment, vraiment, ils sont... Ouais, il est fort, Souli, il est fort. Il y a aussi un Walid qui a combattu Arès. Ils sont tous les trois forts. Et tous les trois, bah, ils performent. Et je suis obligé de leur faire du mal à l'entraînement. Il n'y a pas ce côté-là amical ou autre. Là, c'est le travail. Moi, quand je suis sur le sparring ou quand je suis à l'entraînement, je suis vraiment concentré vraiment sur le travail. Je ne fais pas place aux émotions, parce que dans la cage, on est livré à nous-mêmes. Il ne faut pas faire place aux émotions face à un adversaire. Donc, je fais la même chose à l'entraînement. Et je pense qu'ils l'ont compris. Eux-mêmes, ils font de même à l'entraînement. Quand je les vois, les sparring, des fois, si je vois qu'ils baissent un peu la garde ou qu'ils respirent, qu'ils montrent une faiblesse dans leur garde, je lui crie dessus, remets ta garde, mets-toi bien, montre rien. Tu vois, c'est quelque chose d'important. C'est le travail.
Ouais.
Tu vois, et ce que tu vas reproduire à l'entraînement, tu peux le reproduire en combat. Donc, faut rien laisser paraître. Si tu as envie de gagner ton combat, tu es obligé de donner une détermination dans l'entraînement et une détermination dans le combat.
Oui, de montrer. Et puis voilà, tu sais, on a un autre illustre combattant du 93 qui nous a servi de mentor à nous, qui s'appelle Danny Bill.
Ouais.
Il faisait des misères pas possibles à l'entraînement, tu t'imagines bien. Et qui disait à chaque fois, le combat, ça pourra jamais être pire.
Bien sûr. Ouais, moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Moi, l'entraînement, c'est plus dur que le combat. Le combat, ça dure quoi, 25 minutes?
C'est vrai.
L'entraînement, il dure 1h30, 2h.
Dur. Surtout avec 5 minutes, Saladin Parnasse qui est surtout...
C'est vrai que c'est plus compliqué quand je commence à mettre le rythme, c'est plus compliqué. Non, mais c'est... ça les pousse et c'est bien. Eux-mêmes, ils me poussent. C'est quand je les vois se dépasser et tout ça, je me dis, ah, il essaie de me dépasser, faut pas que je le laisse. Il essaie de me dominer en sparring, faut pas que je le laisse. Et ça me pousse, ça me fait travailler encore plus. Et on a tout. On a l'infrastructure, on a tout pour qu'ils réussissent.
Ouais, et puis les coachs, Arnaud Templier, Boris Sauston,
c'est
de la grosse qualité, quoi.
Après, ça eux, c'est vraiment eux, c'est comme je t'ai dit, c'est des fréquentations, ce que tu veux faire. C'est pour ça que je dis, il faut toujours fréquenter des personnes qui te poussent vers l'avant, pas écouter tout et n'importe quoi. Tu regardes vraiment les personnes qui ont réussi, tu essaies de rester avec eux. Voilà, c'est de les prendre comme exemple. Comme je l'ai dit, moi je prends un exemple Hatch, je prends un exemple Pierre. Personne ne m'a mis un coup de tout sur la gorge, va les suivre. C'est moi tout seul qui voulais apprendre dans le tas. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans la plomberie. C'est moi, je voulais travailler dans la plomberie, me créer une stabilité. Tu vois, donc je voulais réussir ma vie avant tout. C'était ça le plus important.
Ouais, et on voit aujourd'hui hein, où ça t'a amené. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Bah, le meilleur. Le meilleur, toujours. On n'est jamais rassasié. Ouais, bah. Je cherche toujours à gagner plus.
Ouais, de toute façon, tu m'as dit que t'as jusqu'à 40 ans, donc
voilà.
Faut du meilleur pendant pas mal de temps. On va juste finir avec 5 questions. Je voudrais que tu essayes de répondre rapidement. Ouais. Là, tu réfléchis pour me dire la réponse
spontanée. C'est quoi ton question ?
T'inquiète pas, c'est bien, tu peux voir. La première, c'est... ce serait quoi ta performance préférée de ta carrière ?
Ma performance préférée de ma carrière ? Bah, c'est pas vraiment une performance, mais c'était mon combat contre Bartoszynski.
Ouais.
C'est celle-là. Pour moi, c'est mon meilleur combat de toute ma carrière.
Je suis content
parce que c'était une catégorie
au-dessus.
Il pesait plus lourd que moi. Et j'avais cette appréhension-là, j'avais cette petite peur-là. Avoir un adversaire qui ressemble à un taureau en face de toi, c'était compliqué. Quand la cage elle se referme, t'es là, tu le vois, tu dis ah ouais. Peut-être j'en ai fait un peu trop. Mes rêves étaient trop.
Un peu de peur. Ouais, c'est bien.
Un peu trop. Okay. C'était un peu trop loin.
j'aime bien cette réponse et je suis content que tu aies répondu ça. C'est quoi le combat que tu pourrais revoir toute ta vie sans te lasser ?
Sans me lasser ?
Ouais.
Floyd Mayweather Canelo. Oh. Canelo Alvarez, c'était un combat de fou. Tu voulais...
une leçon de fou.
Ouais, c'était une leçon de fou de Floyd Mayweather.
Ouais.
Non, il a puni Canelo, les esquives, tout était bon. Je peux en avoir un deuxième ou pas ?
Oui, bien sûr.
Le combat entre Canelo et Golovkin, okay. Et le combat entre Shawn Mendes et José Aldo, le 2.
Ah, c'est que des bons choix, vraiment.
Ouais, c'était des combats qui m'ont marqué. Qui ont marqué ma vision des choses. Plein de choses comme ça, quoi.
Très bien. C'est quoi ton film de bagarre préféré ? Ça peut être des films de kung-fu, ça peut être... Enfin, ce que tu veux.
Attends, faut que je réfléchisse, là. Mon film préféré ?
Ouais, de combat, de...
Non, moi, c'est super-héros, les Avengers, je pense. Hein.
Ah.
Ouais, les Avengers.
Ok. C'est... Marvel.
Ou sinon, attends, j'en ai plein. Moi, je crois que c'est Jean-Claude Van Damme, tu sais. Jean-Claude Van Damme,
voilà, avec... L'envie en vraie chose.
Ouais, Jean-Claude Van Damme avec Bloodsport.
Ok, merci.
Bloodsport. Ou sinon, il y a Bruce Lee aussi.
Merci.
Le film de Bruce Lee contre... tu sais, quand ils rentrent, là, ils font les combats dans l'arène. Je sais pas si... tu vois, c'est quel film ?
Oui, La Fureur du Dragon.
Ouais, La Fureur du Dragon. Ou sinon, il y a eu Dans la glace, là, tu sais. Je sais pas si tu vois ces.
Oui, c'est oui, bien sûr, il se fait griffer.
Tout. Il se fait griffer, tout ça, ouais, c'est incroyable.
Bon, c'est bon, c'est des très bons choix. J'en ai une dernière qui est double. C'est qui le GOAT du MMA ?
Le GOAT du MMA ?
Ouais.
John Jones, j'ai du mal parce que. Produits dopants, cocaïne, tout ça.
Je vais te prendre dans mes bras, mais continue.
Pour moi, à l'heure actuelle, c'est Islam Makhachev.
Ok.
À l'heure actuelle, Islam Makhachev. Série de victoires, laisse tomber, il va détrôner tout le monde.
Ouais,
Islam Makhachev, parce qu'il a prouvé depuis longtemps, il a l'UFC depuis longtemps. Il a affronté des adversaires solides. Je pense, ouais, c'est lui le GOAT pour moi, c'est lui.
Et en anglaise ?
En anglaise, Floyd Mayweather pour moi. Floyd Mayweather, c'est plus lui qui m'a marqué.
Ouais, oui, bah...
Même sa façon sa façon de combattre, c'est plus lui. C'est plus lui qui m'a marqué.
Ok. Écoute, j'aime beaucoup tes réponses. Pour les prochains invités, il va falloir faire mieux, mais ça ne va pas être facile.
Ouais, ça va être compliqué. Hein.
Saladin, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. C'était une belle conversation.
Avec plaisir, avec plaisir.
Et puis écoute, on essaie de la refaire à la fin de ta carrière. Si je fais encore ça, tu es encore en train de combattre.
J'espère, écoute, on va voir.
En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, on se revoit très bientôt sur nos antennes, puisqu'on diffuse tes combats au sein du KSW, évidemment, sur RMC Sport. Soyez présents au rendez-vous du prochain combat, Saladin Parnasse. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Le rédacteur en chef, Laurent Dupluy, Chloé Sauvourel, Chloé Timbert, Mathias Saint-Luce, Antoine Rossi au montage. Et abonnez-vous, partagez, likez, s'il vous plaît, commentez. Donnez-nous vos suggestions pour un prochain invité, on essaiera de le faire venir avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Baba Versus.